Songasme, l'émission à thème musical de Radio Campus Paris. Bonjour les loulous et bienvenue dans le sixième numéro de Songasme sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, Songasme va s'engouffrer dans les flammes de l'enfer et dans les méandres du mal. J'irai pour vous me faisant fi du danger, me frotter à l'ange déchu, le plus détesté, le plus vénéré de tous, Mister Satan, aussi appelé Lucifer.
Vous êtes quoi ? Oh, on me donne tant de noms différents. Satan. Non. Oh. Appelle-moi papa.
Les origines du diable sont multiples et complexes. Dans les grandes religions monothéistes, l'histoire du diable est celle d'un ange insoumis qui aurait défié Dieu en voulant devenir son égal. Précipité aux enfers, il deviendra chef de tout démon et autre ange déchu afin de revenir sur terre et de faire renier le mal au sein des hommes. La religion catholique, depuis des siècles et des siècles, catégorisera de diabolique et de satanique tout mouvement contraire à leur dogme, toute rébellion et remise en cause de son institution. La musique a quelque chose de religieux et de divin, et l'homme a toujours eu tendance à mythifier et à sacraliser sa musique, que ce soit les musiciens, les interprètes ou les compositeurs. La religion et la scène musicale possèdent tous les deux des dieux qui côtoient le ciel ou les enfers, des apôtres, des fidèles et des opposants. Que l'on prenne Elvis Presley, Ozzy Osbourne ou Johnny Hallyday, on leur trouvera toujours des vrais fanatiques qui se réunissent entre eux et leur vouent un culte puissant. Comment le diable est-il donc utilisé dans la musique ? Y a-t-il réellement une musique du diable ? Qui sont les vrais satanistes ? Cette musique est-elle forcément agressive, troublante et dangereuse pour les oreilles de l'auditeur ? Songasme essaiera de vous apporter des réponses en deux parties sur ce sujet brûlant. Durant le Moyen-Âge, l'imagerie du diable était très présente par la littérature, la peinture, la musique et les récits oraux. C'était une peur très ancrée dans la population. On représentait Satan avec des cornes de bouc et des ailes. Un être hybride entre le chien, le taureau et l'homme. Et c'était évidemment lui qui était la cause de tous les comportements dangereux et immoraux de la population. Tout ce qui était en dehors du cadre imposé par l'institution religieuse était donc hérétique et diabolique. L'Église catholique, dans une volonté d'expansion, jouait beaucoup avec l'imagerie du diable, le but étant de faire peur aux non-croyants et de les rallier à la grande cause. La musique était l'outil idéal pour mieux faire passer les idées religieuses ou politiques. Elle l'est toujours, d'ailleurs. On purifiait donc la population païenne avec une musique pure et harmonique, une musique censée amener vers le haut, une musique d'élévation vers l'éternel. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit composée d'intervalles gracieux et doux à l'oreille, l'intervalle étant l'écart de hauteur entre deux notes. Et c'est là qu'arrive l'intervalle païen par excellence, l'intervalle interdit, le diabolus in musica, littéralement le diable dans la musique. Ce nom est dû au fait que cet intervalle fait exactement 3 tons, ce qui donne triton, et cet intervalle a une sonorité un petit peu étrange qui induit une impression de suspension et de déstabilisation. Jugé alors violent et désorientant, il fut tout simplement interdit par l'Église. Voici un exemple. Avec 2 intervalles que vous allez entendre, que l'on va qualifier de purs, et un 3e qui sera donc triton. Aujourd'hui, pour nos oreilles, cet accord n'a plus rien de déstabilisant. C'est au contraire plein d'énergie. C'est un intervalle qui fait appel aux tripes, à quelque chose de presque sexuel, ou en tout cas très charnel. Et c'est sans doute pour ces raisons qu'il fut craint et interdit. C'est parce qu'en fait, il avait une sonorité qui nous ramenait sur Terre plutôt que nous élever. Il nous ramenait sur Terre pour danser. C'est quelque chose qui nous ramène au corps, dans notre corps. Donc il n'y a plus d'élévation possible. Alors aujourd'hui, le triton est très très utilisé, surtout dans la musique rock, dans le métal, mais aussi dans beaucoup de musique de films. Et une des utilisations les plus emblématiques du triton peuvent se retrouver dans les parties de guitare de Tony Iommi, guitariste légendaire du groupe Black Sabbath. We'll be right back. La musique classique a beaucoup évoqué le diable dans ses œuvres. Un exemple emblématique, qui est connu de tous par le dessin animé Fantasia, pourrait être « La nuit sur le mont Chauve » de Mussorgsky. Mais un des thèmes récurrents est, à mon avis, le mythe de Faust et ses nombreuses adaptations en opéra et en pièces symphoniques. Faust est une histoire assez très simple, en fait très très connue d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un savant qui est face à de nombreux problèmes existentiels et qui décide de vendre son âme au diable pour trouver des réponses. Un des plus grands violoncellistes de notre histoire fut accusé, lui aussi, d'avoir vendu son âme au diable en échange de son talent musical. Cet homme s'appelait Niccolo Paganini. Né en 1782 et mort en 1840, Paganini était l'ovni dans le paysage musical de l'époque. Écoutons un extrait de son concerto pour violon et orchestre numéro 1. Paganini était reconnu et admiré de tous, mais on le craignait comme la peste. Cumulant plusieurs maladies osseuses et respiratoires, son corps ressemblait tout bonnement à une dépouille ambulante. Une longue chevelure, un regard de feu et perçant, le visage blanc et ravagé par la maladie, des doigts longs et maigres se baladant à grande vitesse sur son manche, voilà quelle était la silhouette du violoncelliste. On disait de lui qu'il était déjà mort et que tant de talent dans un corps si horrible n'était pas humainement possible. Paganini jouait crispé sur son violon. Comme possédé, il accaparait son instrument et transcendait tout ce qui avait pu être fait auparavant. Il semblait au-dessus de toute nature humaine. Tant de génie, de force et de magnétisme renforçaient son aspect démoniaque. La population était réellement persuadée qu'il avait signé un pacte avec le diable et que son corps décharné et agonisant était sa punition. Le mythe faustien va souvent réapparaître au cours de l'histoire de la musique. Il ressurgira surtout au début du XXe siècle avec le blues, musique profane, violente et éminemment sexuelle, que les communautés blanches et religieuses condamnaient de diabolique pour la notion de plaisir qu'il pouvait avoir dans cette musique. Nous sommes à la fin des années 20 dans le Mississippi. Robert Johnson est un jeune homme rêvant de pouvoir jouer son propre blues. Malheureusement, il n'a aucun talent. Sunhouse, grand bluesman de l'époque, lui dit d'ailleurs qu'il fait fuir les gens avec sa musique et qu'il devrait absolument abandonner toute ambition musicale. Robert Johnson, déçu, s'arrête un peu et continue de vivre avec sa femme, mais qui meurt, sa femme, après une fausse couche en 1929. Endeuillé, Robert Johnson disparaît dans la campagne pendant quelques mois. Il revient en ville en étant très sûr de lui. Il était devenu tout simplement le guitariste-chanteur le plus doué de toute sa génération. Alors incrédule, ses amis et lui-même commencèrent à répandre la rumeur qu'il aurait, un soir, au croisement de plusieurs routes, signé un pacte avec le diable en échange de son talent et de son succès. Il meurt à 27 ans, empoisonné par sa femme, rentrant ainsi solennellement en premier dans le fameux club des 27. Je cite « J'étais dirigé et commandé par un pouvoir étrange, le pouvoir des ténèbres dont beaucoup de personnes ignorent l'existence, le pouvoir du diable, Satan. » Cet aveu nous vient de l'homme qui a inventé l'onomatopée le plus connu de l'histoire du rock'n'roll. Tutti Frutti, un des premiers grands chocs culturels de l'Amérique puritaine. Imaginez, nous sommes en 1955, un noir, homosexuel, maquillé, ayant une coiffure improbable, hurle sur son piano des chansons inaudibles. Pour les parents de l'époque, ça ne pouvait être qu'un signe du malin. La chanson Tutti Frutti marquera au fer rouge le début d'un combat entre la société bien-pensante américaine et le rock'n'roll qui prendra des proportions énormes dans les années 70. Dans ce branle-bas de combat, les parents ne s'étaient pas encore aperçus que quelque chose de nouveau était en train de naître, une nouvelle couche sociale, l'adolescent. Le rock'n'roll, considéré comme satanique, marque l'apparition de l'adolescence. Lorsque John Lennon déclare en interview que les Beatles sont plus connus que le Christ et que la religion catholique est vouée à disparaître, c'est la panique. La présence de Satan dans le rock'n'roll allait devenir dans les années 70-80 une réelle obsession, limite maladive. Le porte-parole de ce mouvement intégriste était le père Régime Ball, prêtre québécois, guerrier anti-rock'n'roll satanique. Il déclara, après la sortie de son livre « Rock'n'roll, viol de la conscience par les messages subliminaux » en 1983, un joli tissu d'Henry complotiste, que la musique rock était devenue la plus puissante révolution des corps, des esprits et des cœurs jamais sortis des entrailles de l'enfer.
C'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgées de 14 à 23 ans. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. Rock'n'roll. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. J'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. En traduction, cela signifie « Excite-moi sexuellement, homme mort ». Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Turn me on, dead man.
Ces interprétations délirantes reflétaient seulement le malaise de l'écart générationnel qui se creusait de plus en plus entre les jeunes et les adultes. L'Église, en fait, était surtout terrorisée de s'apercevoir que les jeunes se tournaient plus vers la musique pop et rock que vers Jésus. Tout argument, même délirant et infondé, était donc recevable pour encore une fois ramener les moutons égarés. Dans la deuxième partie de Sangasme, nous aborderons l'image rebelle de Satan. Comment des groupes comme Black Sabbath, Slayer ou Pentagram ont utilisé son image pour le style, pour l'effet et pour la vente. Nous aborderons aussi le style du black metal. Attention à vos oreilles. Pour conclure, je vous propose de nous quitter sur un avant-goût de ce qui vous attend avec le groupe Pentagram.